Bonjour à chacune, bonjour à chacun. Je connais pas beaucoup de monde dans cette salle. Je pense que pas beaucoup de monde me connaît non plus. Donc, je vais me présenter rapidement. C'est vrai que ce matin, je vais vous parler de Box Up, puis j'avais aussi à cœur de vous partager quelque chose qui brûle en moi. Et c'est pour ça qu'on va commencer par lire aussi un texte, et puis que je vais paraphraser, et puis vous expliquer un petit peu en quoi ce texte me touche. Donc, je m'appelle Mathias Auguet. Je viens en fait de la région du Chablais. J'ai grandi là-bas à Aigle. J'ai eu la chance de rencontrer une femme merveilleuse quand j'avais la vingtaine, Sarah, qui est ici, qui venait de la Chaux-de-Fonds. Et puis aujourd'hui, on habite à peu près à équidistance des deux villes, à Moudon, dans la Broye vaudoise. Enfin, à Lussan maintenant, on vient de déménager. Et puis, on a quatre très beaux enfants. On est très reconnaissants. Ça nous donne plein de jobs. Ça nous force à rester des gens énergiques. C'est tellement beau quand on a des enfants de découvrir à quel point Dieu a un appel et des dons particuliers pour chacun. Comment quatre enfants qui sortent du même couple et qui sont dans la même éducation peuvent être autant différents. Et ben, si ce n'est pas pour leur appel, je ne sais pas pourquoi c'est. Voilà, moi, j'ai pas toujours cheminé à fond avec Dieu. Quand j'étais jeune, j'avais toujours beaucoup de respect pour ceux qui ont la foi. Je croyais que Dieu existait, mais c'était plus une histoire d'éternité qu'une histoire de maintenant. Et puis, quand j'étais ado, vers 17-18 ans, j'ai vraiment rencontré pour la première fois l'amour de Dieu, comme quelque chose de tangible. Et puis, depuis ce jour-là, ma vie a quand même assez bien changé. Et puis, je pense que certains d'entre vous ont peut-être vécu comme moi des hauts, des bas dans leur foi, mais je dirais que ça fait quand même une quinzaine d'années que je suis témoin de la fidélité de Dieu et puis que je le vois agir dans ma vie. Donc voilà, je suis quelqu'un qui vient d'une famille pas forcément engagée, mais aujourd'hui, je peux témoigner que Dieu a un appel pour chacun d'entre nous. Ça fait 10 ans que je fais Box Up, mais ce que je vous propose, c'est que c'est pas exactement le fil rouge que j'avais prévu, mais je vais commencer par vous parler d'un texte. Et puis je vous parlerai de Box Up après. Est-ce que vous arrivez à avoir assez de patience pour attendre les news sur Box Up? Ça va aller? Ok. Si jamais, juste pour votre info, une chose que vous pouvez peut-être savoir, c'est la première fois que je prêche en dehors de mon église. Alors si je transpire, c'est pas qu'il fait trop chaud, c'est juste un peu le stress, hein. Mais on peut relaxer, ça va bien se passer. Ok. Si vous avez vos Bibles, je vous propose de l'ouvrir dans le livre de Daniel. J'aurais tellement envie de lire 3-4 chapitres avec vous, mais on m'a aussi donné un timing et puis je vais essayer de le respecter. Donc on va directement ouvrir dans Daniel au chapitre 3 et on va lire l'histoire de la fournaise ardente. Mais avant ça, je vais juste vous donner un peu le contexte parce que bon, je ne vous connais pas comme j'ai dit et du coup je ne sais pas si vous avez tous déjà lu 15 fois Daniel ou bien peut-être ça ne vous parle pas du tout. Donc, dans la Bible, on lit l'histoire d'un peuple que Dieu a choisi pour se manifester. C'est le peuple d'Israël. Et puis ce peuple d'Israël a vécu énormément de choses, et je vous encourage à lire cette aventure encore et encore et encore. Et puis vers la fin de l'histoire qui précède l'arrivée de Jésus, le peuple d'Israël s'est tellement éloigné de Dieu que Dieu a comme dissous leur nation. Et les Juifs sont partis en exportation dans le royaume de Babylone. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils ont été envahis par un empire beaucoup plus puissant qu'eux. Et puis, la stratégie de cet empire-là, c'était de déraciner les peuples et de les repositionner ailleurs pour leur laver le cerveau, leur faire oublier leur culture d'origine et puis leur mettre dans la tête leur culture à eux. Et c'était une bonne stratégie comme ça pour asseoir leur domination, parce que quand tu n'as plus de culture, tu n'as plus d'identité, ben, il ne te reste plus qu'à devenir babylonien comme tout le monde. Et puis dans ce contexte-là, ils prennent des Juifs à Jérusalem quand ils envahissent la ville et ils les emmènent à Babylone pour commencer le formatage. Et puis leur roi, je pense qu'à quelque part, il avait découvert que chaque peuple avait des qualités et des dons qui lui étaient propres. Alors dans chaque peuple, il sélectionnait des gens pour devenir des serviteurs à la cour du roi, des conseillers. Et il fait ça aussi avec le peuple juif. Alors il ne choisit pas n'importe qui, il prend la crème de la crème. Les plus beaux, les plus intelligents, des gens nobles, etc. Et puis parmi eux, il y a quatre jeunes qui ont été choisis. Donc, il prenait des jeunes. Je ne sais pas si c'est parce qu'il ne voulait pas investir en formation de des gens proches de la retraite ou si c'était parce que les jeunes sont plus faciles à influencer. Moi, je pense qu'il avait, il avait envie de pouvoir bien resetter la culture et pour ça, prendre un jeune, c'était plus facile. Mais pas de bol pour le roi. Ces quatre jeunes, ils vont rester profondément attachés à Dieu et à son enseignement, à sa loi. Et puis, ce qui est magnifique, et je reviendrai là-dessus après, c'est qu'en fait, à part leur obéissance, par le fait qu'ils restent tellement attachés à Dieu, Dieu va leur accorder sa faveur. Et là où il les a placés, ils vont devenir des gens extrêmement influents. En fait, ils seront gouverneurs de la province de Babylone. Donc, on est au cœur d'un des plus grands empires de l'Antiquité. Et au cœur de l'empire, on leur donne la gouvernance. Donc, pour vous dire le niveau d'influence qu'ils avaient. Et puis ça, bien sûr, ça faisait des jalousies. Donc malheureusement, l'antisémitisme, ça existait déjà. Et là où on en est dans l'histoire, ils sont gouverneurs justement de cette province de Babylone. Ils ont déjà accompli plusieurs miracles devant les yeux du roi. Donc le roi a été témoin en fait que le Dieu des Juifs était vraiment le seul Dieu. Mais ça ne lui empêche pas de continuer de faire quelques erreurs. Et puis on va commencer à lire ce texte dans Daniel 3. Donc on a sur les quatre, il y en a trois qui sont présents, qui sont Shadrach, Meshach et Abednego. Alors on lit, ouais, je vais même paraphraser le début jusqu'au verset 7. Donc en fait, ce roi-là, il était tellement puissant qu'il était devenu orgueilleux. Et puis dans son orgueil, il décide de bâtir une statue en or de 30 mètres de haut, 3 mètres de large. Donc, je ne sais pas si à la BNS, ils ont assez d'or pour couler un truc pareil, mais c'était juste énorme, quoi. Voilà, c'était du jamais vu. Et puis, le concept, c'était qu'il avait rassemblé toutes les personnes importantes, toutes les personnalités de son royaume pour un grand souper de boîte. Et puis, à ce moment-là, là où toutes les autorités étaient présentes, il jouait des instruments de musique et tout le monde devait se prosterner devant la statue. Et par ça, c'était comme si, voilà, il soumettait tout le monde à sa domination. Et puis dans ce contexte, il y a trois jeunes qui décident de ne pas s'incliner devant cette statue. Et c'était ces trois, Shadrach, Meshach et Abednego. C'est pourquoi, au moment où tous les peuples entendirent le son de la trompette, de la flûte, de la guitare, de la petite et de la grande harpe et des instruments de musique de toutes sortes, tous les peuples, les nations et les hommes de toutes langues se prosternèrent et adorèrent la statue en or que le roi Nebuchadnezzar avait dressée. À ce moment-là, profitant de l'occasion, quelques Babyloniens se présentèrent pour accuser les Juifs. Ils prirent la parole et dirent au roi: Roi, puisses-tu vivre pour toujours. D'après l'ordre que tu as toi-même donné, tous ceux qui entendaient le son de la trompette, de la flûte, de la guitare, de la petite et de la grande harpe, de la cornemuse et des instruments de toutes sortes, devaient se prosterner et adorer la statue en or. D'après le même ordre, si quelqu'un ne se prosternait pas pour adorer la statue, il devait être jeté au milieu d'une fournaise ardente. Ça veut dire qu'ils allumaient un four et ils brûlaient les gens vivants dedans. Or, il y a des Juifs à qui tu as confié l'administration de la province de Babylone, Shadrach, Meshach et Abednego. Ces hommes ne tiennent aucun compte de ton ordre, roi. Ils ne servent pas tes dieux et n'adorent pas la statue en or que tu as dressée. Alors Nebuchadnezzar, irrité et furieux, donna l'ordre de faire venir Shadrach, Meshach et Abednego. Ces hommes furent donc amenés devant le roi. Nebuchadnezzar prit la parole et leur dit: Est-il vrai, Shadrach, Meshach et Abednego, que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'adorez pas la statue que j'ai dressée? Maintenant, tenez-vous prêts. Et au moment où vous entendrez le son de la trompette, de la flûte, de la guitare, de la petite et de la grande harpe, de la cornemuse et des instruments de toutes sortes, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Si vous n'adorez pas, vous serez immédiatement jetés au milieu de la fournaise ardente. Quel est le dieu qui pourra alors vous délivrer de mon pouvoir? Donc juste pour le contexte, imaginez. Je pense que le roi, il devait vraiment beaucoup les aimer parce qu'il leur donne une deuxième chance. Puis si vous lisez un petit peu ce personnage, Nebuchadnezzar, ce n'était pas un commode. Donc je pense que la plupart des autres gens, ils auraient fini à la fournaise directe. Mais là, il y a comme une double tentation pour ces trois jeunes. Ils ont une deuxième chance d'en fait échapper à la condamnation en se prosternant. Et puis juste vous rendre compte, c'est pas qu'ils étaient dans une position confortable. Ils avaient été déracinés de leurs racines. Ils étaient dans un lieu où toutes les lois de leur Dieu, tous les cultes, les fêtes, les rassemblements, tout ça n'avait pas lieu. Ils étaient comme isolés et seuls. Ils avaient toutes les raisons du monde de pouvoir juste céder sous cette énorme pression où leur vie était en jeu et puis juste dire « Oui, ok, c'est bon, on se prosterne, tac, on retourne, on continue de gouverner la province de Babylone, on pourra prier Dieu demain. » Vous voyez, ils auraient pu se dire « Dieu comprend, la foi c'est dans le cœur, allez, nous on a un bon cœur, Dieu sait, il nous pardonnera. » Certainement Dieu leur aurait pardonné. Ils auraient pu dire « Ok, c'est les autorités de mon pays qui le disent. Bon, nous, on connaît bien les textes. Il faut se soumettre aux autorités. On se soumet, on fait ce qu'ils disent. » Mais en fait, ils ne vont pas faire ça. Malgré toutes les raisons pour lesquelles ils auraient pu se plier à ce roi Nebuchadnezzar, voilà ce qu'ils vont répondre. « Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar. Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ton pouvoir, roi. Et même s'il ne le faisait pas, sache, roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue en or que tu as dressée. » Comment tu peux répondre à un truc pareil devant des milliers de gens, petit effet de groupe quand même, devant le roi le plus puissant et le plus redouté de la terre, tu prends position pareillement pour ton dieu? Moi, la question que ça me pose, c'est comment ces trois gars-là, ils n'avaient pas fait jeunesse en mission. Ils n'avaient pas tout ça, tu vois. Ils étaient isolés dans un pays où personne n'était croyant. Et pourtant, ils avaient le courage de se positionner avec autant de conviction. Et puis, c'est pas qu'ils savaient ce qui allait se passer. En fait, ils n'avaient aucune idée si Dieu allait intervenir ou pas. Mais dans leur cœur, c'était très clair, dans leur cœur, dans leur tête, dans tout leur être, c'était très clair que leur Dieu était au-dessus de ce roi et qu'eux étaient soumis à leur Seigneur et pas à ce roi. Qu'ils meurent ou qu'ils ne meurent pas dans cette fournaise, la finalité, les amis, c'est qu'ils savaient qu'ils seraient auprès de Dieu. Et que personne ne pouvait, en fait, les arracher au pouvoir de leur Dieu. À quel point dans mon cœur aujourd'hui, je suis convaincu que mon Dieu se positionne pour moi et me délivrera de tout pouvoir et de toute domination. Est-ce que j'ai cette conviction qui est assez ancrée en moi pour pouvoir me positionner devant toute n'importe quelle autorité de ce monde et dire « Moi, j'ai fait mon choix ». Tu sais, mon Dieu me délivrera. Est-ce que j'ai cette conviction? Moi, je rêve d'une génération qui sait se positionner comme ça. Et plus que de juste rêver, j'ai envie de me battre et de tout faire en œuvre pour que moi-même, ma génération et les générations qui viennent puissent, avec foi et autorité, se positionner pour Dieu comme ça. Et puis pour aller plus loin, je vais revenir en fait dans le temps, dans cette histoire de Daniel. Puis on va voir comment ces gars, ils en sont arrivés à se positionner pareillement devant Dieu et devant les hommes. En fait, quand ils ont été déracinés, ils ont été amenés à la cour du roi. Peut-être certains d'entre vous connaissent l'histoire. Et puis il y a eu plusieurs étapes avant ce jour où ils sont devant la statue. Et puis il y en a deux en particulier que je vais vous paraphraser ici, et puis vous pouvez aller lire, c'est Daniel 1, 2, 3. Donc après, vous avez toute la semaine pour aller lire encore plein de fois ce texte. Donc, quand ils arrivent à Babylone, ils rentrent dans un programme de formation. Donc, on les accueille dans les meilleurs locaux du royaume, et puis le roi dit, ben voilà, vous allez prendre soin de ces gars, vous allez leur apprendre la langue, vous allez les enseigner, vous leur donnez la meilleure formation. C'est l'école privée que tu peux voir au bord du lac Léman en Suisse, c'était ça, mais à Babylone. D'accord? Alors, ils vont là-bas, et puis le roi dit, bah, tout ce que vous me donnez à moi, à manger et à boire, vous donnez la même chose à ces gars-là. Donc, ça veut dire les meilleurs mets du royaume, le meilleur vin, tout ça. Sauf que, comme dans beaucoup de religions à cette époque, dès qu'on faisait de la viande, on sacrifiait la viande aux dieux avant de la manger. Et du coup, ils sacrifiaient la viande à des faux dieux, aux faux dieux de Babylone. Et puis ça, la loi de l'Éternel est très claire. Elle disait, tu ne manges pas de cette viande. Alors, Daniel, Azariah et compagnie, enfin, ceux qu'on a renommés du coup, Shadrach, Meshach, Abednego et puis Belthasar, ils avaient un choix à faire. Est-ce que je me soumets et puis je mange cette viande souillée? Ou bien est-ce que je me soumets du coup au roi de Babylone? Ou est-ce que je me soumets à la loi de Dieu et je ne mange pas cette viande? Mais du coup, je désobéis forcément à un ou à l'autre. En fait, tu n'as pas de choix. Tu es obligé de faire un choix. Soit tu obéis à un, soit tu obéis à l'autre. Tu n'as pas d'entre deux. Vous savez, Jésus, il a parlé de ça aussi, notamment par rapport à l'argent. En fait, il faut choisir son maître. Et puis finalement, ils vont dire aux serviteurs qui leur servent la nourriture, « Laisse-nous manger que des légumes. Ne nous force pas, s'il te plaît, à manger cette viande. » Et puis, le serviteur est touché dans son cœur par Dieu. Il est dit que Dieu gagne son cœur à la faveur de Daniel. Et puis, il n'a pas envie de les forcer. Mais il a quand même vachement peur parce que si le roi découvre qu'en fait, ils sont mal nourris, alors qu'il a reçu l'ordre de leur donner les meilleurs mets du royaume, il est mort. Il est menacé d'être coupé en morceaux, pour être précis. Et en fait, ce que va faire Daniel, c'est très intelligent. Il va lui dire, laisse-nous faire un test pendant une semaine. Laisse-nous manger juste des légumes pendant une semaine, puis après tu feras ta constatation. Si tu vois qu'on est plutôt en train de maigrir, puis qu'on est moins en forme que les autres, on arrête tout, puis tu ne prends pas trop de risques. Mais si tout va bien, ben laisse-nous continuer. Puis tu vois, à l'époque, il fallait plutôt être gras, c'était ça la mode. Aujourd'hui, ça a vachement changé. Hein. Mais sans manger de viande, c'était assez peu probable que ça marche. Mais ils ont décidé de faire confiance à Dieu. Mais l'un dans l'autre, ils ont fait ce qu'on appelle en anglais un low-cost probe. C'est-à-dire un test à petite échelle. C'est-à-dire on ne prend pas trop de risques, on regarde les résultats et en fonction des résultats, on adapte la méthode. Donc c'est très, très utilisé dans l'industrie, ça. Et puis, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont faire ce test pendant une semaine et à la fin de la semaine, le serviteur il va constater quoi? Il va constater que ces quatre jeunes hommes, ils ont meilleure mine que tous les autres qui viennent d'autres royaumes ou qui ont été pris dans le système de formation. Alors il est tout content et du coup il continue de retirer tous les mets succulents, la viande et le vin de la table de Belthasar, Shadrach, Meshach et Abednego. Vous voyez, ils ont fait un pas de foi. Ce n'est pas qu'ils ont vu un ange leur dire de faire ça, c'est juste qu'ils connaissent leur Dieu, ils savent ce que leur Dieu aime, ils décident d'obéir même quand ça comprend des risques. C'est ça que j'appelle un pas de foi. Puis ça, c'est un point très important. En fait, d'une certaine manière, ils vont tenter Dieu. Et là, peut-être dans votre cœur, vous vous dites, ah, mais Jésus a dit, tu ne tenteras pas l'Éternel ton Dieu en citant l'Ancien Testament. Et c'est juste. On ne doit pas tenter Dieu. Mais en fait, il y a deux choses différentes. Quand tu lis dans la parole, ne pas tenter l'Éternel ton Dieu, on parle d'une époque où le peuple d'Israël n'avait pas confiance en Dieu. Et puis l'a provoqué. Ils étaient dans le désert, ils avaient soif. Et puis en gros, ils ont dit à Dieu, hey, « Si tu existes vraiment, t'as qu'à faire ça. Pourquoi tu nous laisses crever de soif? T'aurais dû nous laisser en Égypte. T'aurais pas dû nous faire sortir. Ça sert à quoi nous avoir fait sortir si c'est pour nous amener là ?» Vous voyez l'attitude du cœur? C'est de la provocation qui vient du doute. En fait, c'est tenter Dieu en doutant de ce qu'il peut faire. En fait, on lui dit qu'il n'est pas légitime et qu'il doit prouver qu'il est capable de faire ce qu'il a promis. Et quand Jésus est tenté par le diable, il l'amène au bord du toit du temple, puis lui dit « Saute, puis tu verras bien si les anges vont te sauver. » Mais ça, c'est une manière de dire à Dieu « Vas-y, prouve que tu es tout-puissant !» Et ça, c'est ce qu'on ne doit pas faire. Mais on peut trouver dans la Bible plein d'exemples de gens qui ont tenté Dieu, pas pour le provoquer, puis lui demander de prouver sa toute-puissance. Mais ils l'ont tenté parce qu'ils connaissaient la toute-puissance de Dieu, ils avaient confiance en lui, et puis ils étaient prêts à obéir. Et puis ils se sont dit, je vais obéir à ce que tu fais, même si ça comporte des risques. Et si vous lisez, Dieu a toujours béni et donné sa faveur à ces gens-là. Vous avez Abraham qui était prêt à sacrifier son fils. parce qu'il savait que Dieu est fondamentalement bon. Il lui demandait de faire quelque chose d'horrible, mais il ne doutait pas pour autant de la bonté de Dieu. Alors il a fait ce pas de foi et Dieu est intervenu. Vous avez un exemple incroyable dans le deuxième chapitre de Daniel. Donc il fait ce premier test où il tente un peu Dieu. Et qu'est-ce qu'il va voir? Il va voir que Dieu est fidèle. Il va voir que Dieu est bon et qu'il peut lui faire confiance. Et parce qu'il a vécu cette première expérience, je suis sûr que dans son quotidien, ça l'a amené à faire plus de pas de foi, à faire plus confiance à Dieu. Et il a dit qu'à la fin de l'année de formation, personne ne donnait des réponses aussi bonnes et aussi sages que ces quatre jeunes gens. Donc vous voyez, il y avait comme une faveur sur leur vie. Dieu leur donnait du succès, Dieu leur donnait de l'influence. Il y avait vraiment cette faveur parce qu'ils avaient obéi. Et puis dans le chapitre 2, il y a une deuxième histoire qui arrive. Le roi fait un rêve. Dans ce rêve, il voit quelque chose qui le perturbe énormément. Il demande à tous les magiciens, les sages du royaume de venir lui expliquer ce que ça veut dire. Mais le roi, il n'est pas bête. Il sait que beaucoup de magiciens viennent pour un peu raconter ce que le roi a envie d'entendre. Il raconte n'importe quoi. Et puis après, c'est pas vrai. Alors il leur donne un challenge. Il leur dit, pour être légitime, vous me racontez d'abord ce que j'ai rêvé. Puis après, vous m'expliquez ce que ça veut dire. Puis si vous êtes capable de me raconter ce que j'ai rêvé, alors bah, vous serez légitime pour raconter ce que ça veut dire. Qui peut raconter ce que j'ai rêvé cette nuit? Personne. Allez, je vous rassure, moi non plus, je ne sais pas ce que vous avez rêvé cette nuit. C'est peut-être mieux comme ça. Du coup, dans le royaume, tout le monde a peur. Tout le monde se rend compte que c'est impossible et le roi lance un édit pour que tous les sages, les magiciens du royaume soient mis à mort parce que personne n'est capable de donner la réponse. Et puis là, Daniel, il va faire un truc complètement fou. Il va aller vers le roi. Il lui parle avec tact. Et il lui dit, donne-moi quelques jours et je te donnerai le rêve et son explication. Parce qu'il y a un Dieu dans le ciel qui peut donner l'explication des rêves. Et là, vous voyez, il faut se rendre compte que Daniel, quand il dit ça, il a 0% de la réponse. Et puis, moi, je trouve ça complètement fou, le pas de foi qu'il fait. Parce qu'en fait, s'il se trompe, il sait qu'il va mourir la pire manière possible. Parce que le roi était déjà très énervé au point de faire massacrer tous les magiciens. Alors, si tu viens, que tu lui promets que tu vas lui donner la réponse et qu'après, tu ne l'amènes pas, tu es très mal. Mais il savait que son Dieu allait agir. Il avait suffisamment confiance dans la bonté de l'Éternel pour mettre sa vie en jeu. Et puis ça, c'est le deuxième grand pas de foi qui nous est raconté dans la parole. Et Dieu va lui donner la révélation du rêve. Et vous voyez, c'est comme ça que petit à petit, Dieu a bâti la foi de Daniel et de ses amis. De petit jusqu'à grand, il les a mis dans des situations où il fallait sortir de sa zone de confort pour obéir à Dieu. Et parce qu'ils ont obéi à Dieu, ils ont vu la fidélité de Dieu. Vous savez quel était le rêve du roi ? Une grande statue avec une tête en or, un corps en argent, des cuisses en bronze, des jambes en fer et des pieds en fer mélangés d'argile, qui représentait plusieurs royaumes qui allaient se succéder après Babylone, la tête en or étant Babylone. Ça, c'est la première partie. Tous les historiens peuvent vous dire que soit la prophétie était vraie, soit elle a été écrite après, parce que ça colle à 100% avec l'histoire de l'Antiquité. Mais ce qui est le plus fou dans cette révélation, c'est ce qui se passe juste après. Cette statue était là, impressionnante, apeurante. Et tout à coup, une pierre se détache de la montagne. Et cette pierre roule et vient frapper la statue à son pied. Et elle pulvérise l'argile et le fer des pieds, le fer, le bronze, l'argent et l'or de la statue. Elle le pulvérise et elle part comme de la poussière, comme de la balle sur l'aire de battage. Il n'y a plus rien. Et puis cette pierre qui est là, elle se transforme en montagne et elle grandit jusqu'à couvrir toute la terre. Quand Daniel se réveille, il chante les louanges du Seigneur comme jamais. Et moi, la question que je me pose, c'est est-ce qu'il chante les louanges du Seigneur parce qu'il vient de sauver sa peau, parce qu'il a trouvé la révélation? Je ne sais pas. Si vous relisez, franchement, allez relire Daniel, j'espère que ça vous donne envie. Je crois qu'en vous lisez Daniel, on trouve un homme qui était consacré, qui aimait le Seigneur, qui désirait de tout son cœur voir le royaume de Dieu, qui désirait voir Dieu régner. Et qu'est-ce qu'il voit dans sa vision? Il voit, ok, des royaumes vont tomber, mais ce qu'il voit, c'est qu'il y a un royaume éternel qui va être établi. Vous savez, les historiens, ils peuvent dire quand a commencé l'empire de Babylone, quand il a fini. Ils peuvent dire quand les hellénistes ont commencé, quand ça a fini, quand les romans ont commencé, quand ça a fini. Mais il y a une chose où on peut dire quand ça a commencé, mais on ne peut pas dire quand ça finira. C'est le royaume de Dieu. Et cette montagne qui grandit et qui couvre toute la terre, les amis, c'est le royaume de Dieu. Et le royaume de Dieu, c'est comme ça. C'est cette petite pierre qui se décroche de la montagne, qui vient taper le pied de la statue et qui pulvérise toutes les dominations. Et cette pierre, c'est la pierre angulaire. C'est le pain de vie qui descend du ciel. C'est Jésus qui est venu renverser toutes les dominations. Et est-ce que vous avez assez foi en lui pour croire que toute domination, toute autorité sur cette terre lui est soumise? Oui? Est-ce que vous êtes témoin que Dieu est tout puissant, mais non seulement il est tout puissant, mais il est aussi bon pour nous et il désire nous faire régner avec lui? Oui? Amen. Jésus, il est incroyable. Il a fait ça. Il n'a pas fait ça en écrasant les autres peuples. C'est les Romains qui ont fait ça. Lui, il est venu comme quelque chose de petit, qu'il se pose là et qui grandit parmi les nations. Vous savez, le royaume de Dieu, c'est comme une graine de moutarde. C'est insignifiant, mais ça pousse et à la fin, tout le monde peut faire son nid dedans. C'est comme la levure dans la pâte. Au début, on ne le voit pas, mais si on en met, il y a tout qui lève. Alléluia. Et moi, je rêve d'une génération qui peut expérimenter, comme Daniel, la bonté et la fidélité de Dieu, qui va voir d'abord des petits miracles. Ça va nourrir sa confiance et elle va pouvoir oser plus et voir encore plus et un jour se positionner comme Shadrach, Meshach et Abednego. Et vous savez ce qui se passe avec cette statue d'or où ils n'ont pas voulu se prosterner, vous voulez la fin de l'histoire? C'est que oui, ils vont être jetés dans la fournaise. Même les deux soldats qui vont les jeter dans la fournaise, ils vont mourir brûlés tellement la fournaise elle est ardente. Mais après, le roi regarde. Et il commence à paniquer. Il dit à ses autres magistrats, est-ce qu'on n'avait pas lancé trois hommes attachés, liés dans cette fournaise? Bien sûr, mon roi, c'est ce qu'on a fait. Mais je vois quatre hommes. Ils sont dépourvus de liens et un d'eux ressemble à un fils de Dieu. Ils n'étaient pas seuls dans la fournaise. Bienvenue. Ils n'étaient pas seuls dans cette fournaise. Dieu les a délivrés. Le roi, il voit ça. Il est bouleversé. Dans les heures qui suivent, la statue elle est destituée, détruite. Et il fait publier un édit dans tout son royaume, comme quoi personne ne doit se moquer du roi, du dieu, de Meshach, Shadrach et Abednego. C'est exactement quelques années après, un prémisse de ce qui a été révélé dans la vision du roi, révélé par Daniel. C'est qu'un acte d'obéissance, la venue du Christ, renverse les dominations. Et révèle la gloire du Père. Et aujourd'hui, on vit dans ce temps où la montagne est en train de couvrir la terre. Aujourd'hui, les amis, on vit ce temps où le royaume se répand et où on est appelé à se positionner avec aucune violence, aucune arme, aucune stratégie, mais avec une relation profonde et une confiance dans la bonté et la fidélité de Dieu. Et c'est ça qui va nous faire renverser les royaumes. Amen. La réflexion que je vais donner pour conclure, c'est vraiment, voilà, Jésus, il nous a demandé dans Jean 15, 26, 27 d'être ses témoins, n'est-ce pas? Mais je ne sais pas si tout le monde connaît en tout cas ça. Vous serez mes témoins. Mais vous savez, quand il dit ça, il s'adresse à des gens qui ont vécu et qui l'ont à ses côtés et qui l'ont côtoyé. Il dit, je vais vous envoyer de la part du Père celui qui va vous aider, c'est l'Esprit de vérité qui vient du Père, le Saint-Esprit. Quand il viendra, c'est lui qui sera mon témoin. Donc c'est lui qui témoigne que Jésus-Christ est vivant à nos cœurs. Et vous, vous serez mes témoins parce que vous avez été avec moi depuis le début. Quand il a donné cette impulsion, il parlait à des gens qui avaient vécu et côtoyé Jésus-Christ ressuscité. Et moi, je crois que fondamentalement, si aujourd'hui on veut être des bons témoins, beaucoup plus qu'une stratégie de communication ou un bon programme, ce qu'on a besoin, c'est de pouvoir dire « J'ai vécu et côtoyé Christ ressuscité. J'ai besoin de voir Jésus à l'œuvre. » Et là aussi, lisez la Bible en entier, vous verrez que Jésus, Dieu, agit vers les perdus. Dieu agit quand il y a tellement besoin d'un miracle. Dieu commence à agir quand en fait tu n'as plus d'autre option. Et moi, je prie qu'on puisse développer de plus en plus de circonstances dans nos communautés où on est totalement dépendant de lui. Je vais juste prier, puis après on pourra rapidement présenter BoxUp. Seigneur, moi je te dis merci pour ta bonté envers nous. C'est tellement une évidence quand on regarde ta création que tu es grand et puissant et saint. Mais Seigneur, on a besoin que tu convainques nos cœurs de ta bonté et que tu seras toujours là, à la brèche, quand on fera un pas de foi pour te servir. Et je prie que si on a peur pour nos finances, tu nous donnes la foi pour nos finances. Je prie que si on a peur pour notre sécurité, tu nous donnes la foi pour notre sécurité. Je prie que si on a des doutes pour notre éternité, tu nous donnes la foi pour notre éternité. Je prie que partout où il règne encore un esprit d'orphelin, tu nous donnes ce matin un esprit d'adoption et qu'on puisse partir d'ici avec cette révélation que tu nous aimes et que tu ne nous abandonneras jamais comme tu n'as jamais abandonné Daniel et ses amis. Au nom de Jésus, Amen. Alléluia. Alors, j'ai amené un